Les rendez-vous du Mondial du bâtiment, les métiers, une émission animée par Nathalie Croiset.
On le dit souvent dans ce rendez-vous du Mondial du bâtiment et d'ailleurs depuis ce matin, le secteur du bâtiment et des travaux publics regorge de compétences et de métiers très variés. On retrouve la conception, la construction, le développement, l'étude de stratégie et j'en passe. Et chaque mois, nous prenons le temps d'un éclairage sur les métiers parce qu'on s'adresse aussi aux plus jeunes et puis de faire comprendre l'intérêt aussi de ces métiers-là. Et ce mois-ci, nous zoomons sur le métier d'architecte d'intérieur. Pour en parler, nous sommes avec Étienne Prost. Bonjour.
Bonjour.
Alors, rapprochez-vous bien du micro pour qu'on vous entendre. Vous êtes ancien président du CFAI. Quelques mots complémentaires pour vous présenter.
Alors oui, je suis d'abord architecte d'intérieur, diplômé d'une école d'architecture intérieure, Penningen. J'ai bien sûr travaillé dans des agences, j'ai monté ma propre agence et puis je me suis aussi intéressé au métier, à son fonctionnement, à sa représentation et j'ai été vice-président puis président du Conseil français des architectes d'intérieur, qui est la principale formation pour les, enfin, représentation pour les architectes d'intérieur. Parallèlement à ça et à mon agence, je suis également enseignant chargé de cours dans des écoles d'architecture intérieure. Et depuis 2017, je suis également formateur agréé pour l'architecture intérieure.
Ouais, parfait. Donc là, on est vraiment dans ces métiers-là. Alors, nous, on a régulièrement une émission hein, en fin de séquence, on va dire, tendance qui est pilotée par le pôle, justement, des architectes d'intérieur. Donc, on a souhaité aussi le mettre en avant. Alors, quelle est la formation, justement, d'architecte d'intérieur ?
Alors, la formation d'architecte d'intérieur, c'est quand même une formation experte, hein, il faut le rappeler, qui se fait à Bac plus 5. Donc, au niveau maîtrise, licence maîtrise. Certaines écoles font 6 ans, mais la plupart permettent d'avoir le diplôme en 5 ans, sachant que ce sont des diplômes de très haut niveau, puisque c'est actuellement le niveau 7 qui était l'ancien niveau 1, qui correspond quasiment au plus haut niveau de diplôme reconnu par l'État. Donc c'est vraiment des formations expertes pour des gens qui sont motivés et qui sont prêts à s'accrocher pour faire 5 ans d'études supérieures.
Alors j'ai vu, c'est une référence purement personnelle par rapport à mon fils aîné qui s'intéresse à tout ce qui est design, que de plus en plus il y a des écoles justement où on retrouve ces métiers d'architecte d'intérieur liés aux enjeux du design, peut-être parce que c'est de plus en plus numérique, c'est ça ?
Et ben justement, et également Nathalie, c'est aussi lié peut-être à la popularité qui commence à monter auprès de ces métiers, notamment les métiers de l'architecture intérieure. C'est un métier qui était moins connu il y a quelques années et qui prend beaucoup d'importance aujourd'hui. Mmh. Et cette attraction du métier conduit aussi des écoles qui sont plus des écoles soit de design, soit de plastique, de proposer des filières ou des cursus plus dédié à l'architecture intérieure. Alors ça peut être bien, dans certains cas, ce sont des filières qui sont assez bien construites, mais parfois c'est aussi un petit peu commercial, dans le sens qu'on ne veut pas laisser passer une appellation et une formation qui est attractive aujourd'hui. Donc c'est vrai que nous, au CFAI et aussi à Pôle Action, on a tendance à préférer les diplômés qui sont issus de cursus typiquement architecture intérieure.
Voilà, comme ça c'est une précision à apporter, parce que j'avais été assez étonnée sur ce salon de voir ce lien entre, on va dire, ces différentes formations. Alors, sur quel projet interviennent les architectes d'intérieur ?
C'est une très bonne question parce que je pense que même si le métier commence à avoir une audience assez remarquable, il y a encore des préjugés, il y a encore des restrictions. Donc certaines personnes pensent que l'architecte d'intérieur, c'est une personne qui va faire de l'habitat, du résidentiel, éventuellement de l'hôtellerie. Et ça, c'est vrai pour les architectes d'intérieur, dont c'est effectivement une grande partie de l'activité.
Et les émissions télé ont refait sa maison aussi, ça n'a peut-être pas aidé non plus.
Ça, c'est un petit peu le raccourci qui fait mal. Dans le sens où on peut faire croire à des gens qu'un chantier, c'est 2 semaines et après tout est beau. Ça, effectivement, c'est un peu illusoire. Mais en parlant des territoires de l'architecte intérieur, je pense qu'il faut aussi informer vos auditeurs que c'est beaucoup plus vaste que ce qu'on imagine. Je vous fais une image. Aujourd'hui, dans notre société, on passe 80% de notre vie dans des lieux fermés.
On l'a dit d'ailleurs tout à l'heure dans notre émission sur la qualité de l'air intérieur.
On se lève le matin, on est chez soi, on prend le métro, on est dans un lieu fermé, on arrive au travail, c'est un lieu fermé, on va déjeuner au restaurant à midi, c'est un lieu fermé, on passe faire des courses dans une galerie commerçante, c'est également un lieu fermé, et d'ailleurs, aujourd'hui, tout de suite, maintenant, nous sommes dans un studio qui est un lieu fermé. Donc 80% dans des lieux fermés qui sont tous potentiellement aménageable et optimisable par des architectes intérieurs. Donc c'est bien sûr le résidentiel, c'est bien sûr l'hôtellerie, c'est aussi le commercial, le retail, ça peut être l'éducatif, ça peut être l'hospitalier, ça peut être... Moi j'ai travaillé pour des aéroports, j'ai travaillé pour des bibliothèques, on peut travailler dans l'éducatif, on peut travailler dans la scénographie, dans l'éphémère, dans le stand. Les territoires sur lesquels peut intervenir l'arche d'intérieur sont aussi nombreux que les lieux fermés dans lesquels chacun d'entre nous vit.
Et puis en France, mais aussi à l'international.
Ah, bien sûr, je pense que là encore, on ne connaît pas forcément bien, on ne se rend pas toujours compte de l'image que l'on donne à l'étranger, mais il faut savoir que les architectes d'intérieur français, hein, la French Touch, sont très très réputés à l'étranger. Déjà à l'époque de André Putman, beaucoup de projets étaient faits à l'étranger par les architectes d'intérieur français, et c'est également vrai pour des gens comme Stark, les frères Bouroulec, etc.
Et alors, quelles sont les principales compétences justement pour devenir un architecte d'intérieur ?
Alors, ces compétences, c'est vraiment, je pense, une qualité d'observation, de compréhension des besoins. Il faut bien penser qu'on n'est pas des artistes qui faisons une belle œuvre pour le plaisir. Nous sommes dans les arts appliqués. Je rappelle aussi qu'on a la chance en France et en Belgique d'avoir un héritage incroyable sur les arts appliqués. Les arts nouveaux, des gens comme Guillemer, des gens comme Horta, c'est fait en France et en Belgique. L'art décoratif, bien sûr, c'est fait aussi en France. Mmh. Et nos écoles d'architecture intérieure, mais si je vous cite les dates, vous allez être étonnés. C'est 1860, 1870 pour Camondo, pour l'école Boulle, pour les arts décoratifs. Les premières écoles régionales d'architecture, elles arrivent en 1900, voire plus tard. Donc on a vraiment un creuset des arts appliqués qui est très riche. Et une personne qui veut se former à l'architecture intérieure, il va dans ces écoles travailler ses compétences, bien sûr, de représentation, donc le dessin, la capacité d'exprimer un projet et de le faire partager à un client, mais également d'analyse, de technicité, bien connaître les produits, les mises en œuvre, les entreprises, également d'ergonomie, également de réglementation. Donc c'est vraiment un métier très riche en termes de compétences et en termes de capacités.
Et alors, ça vient assez naturellement, cette question. Il ne faut pas les opposer, d'ailleurs. Mais pourquoi on va choisir un architecte d'intérieur plutôt qu'un architecte ?
Alors, de plus en plus, les gens nous choisissent. Et j'ai même un confrère architecte qui me disait, ça m'énerve parce que des fois, je rate des projets parce que je dis que je suis architecte. Et ils me disent, ah non, il ne faut pas un architecte d'extérieur, il nous faut un architecte d'intérieur. Donc, certains confrères architectes, qu'on respecte bien sûr beaucoup, se retrouvent parfois...
ont changé leur carte de visite maintenant.
Bah, ils sont un petit peu évincés parce que finalement, les clients se rendent compte que pour les projets typiquement d'architecture intérieure, peut-être que rien ne vaut le spécialiste architecte d'intérieur. Bon, ça, c'est un grand débat. Mais l'architecte intérieur, qu'est-ce qu'il va apporter à des clients ? Il va apporter déjà une capacité d'écoute qui est parfois presque du domaine de la psychologie. Hein. Ça veut dire qu'on est vraiment, quand on travaille pour de l'habitat, pour du résidentiel, c'est de l'intime. Donc vraiment être proche des gens, les écouter, les comprendre. Il va venir chercher une capacité de dessin et de conception pour lui amener un projet qui sera plus beau que ce qu'il aurait pu imaginer lui-même. Donc là, on est effectivement un vecteur de réussite d'un projet. Et comme je dis souvent à mes clients, vous avez 50 000 euros à dépenser, mais vous pouvez dépenser mal, en mettant des vilaines couleurs, des vilains matériaux, et vous pouvez dépenser bien. Et c'est le même prix. Et le projet n'est pas le même. Donc il y a des recettes, il y a un savoir-faire que l'architecte intérieur a. Et puis aussi, il ne faut pas oublier que nous sommes quand même des maîtres d'œuvre accomplis. Et donc, on maîtrise très, très bien toutes les phases d'un projet, la consultation, l'appel d'offres, la préparation d'un projet, les documents écrits, les suivis de chantier, les comptes rendus de chantier, la réception des travaux, les garanties biennales et décennales. Donc c'est aussi une sécurité pour le maître d'ouvrage, d'avoir un professionnel qui peut mener son projet de A à Z.
Oui, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est le lien aussi que vous faites avec les entreprises de travaux. Il y a ce rôle central.
Finalement,
vous êtes entre celui qui veut rénover son appartement, sa maison, et puis les entreprises de travaux de l'autre côté.
Exactement,
vous faites le lien, c'est
exactement.
Ça
exactement, vous avez tout à fait raison. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle des arts appliqués, parce que nous sommes des artistes. Je commence un projet avec mon crayon, mais à la fin, il est réalisé avec des marteaux et des perceuses par des artisans. Et en architecture intérieure, je pense que la plupart des confrères et des consoeurs voient les entreprises comme des partenaires. Parce qu'on travaille dans la belle ouvrage, on a un très haut niveau de détail qu'on dessine au 20e, au 10e. Donc on est très exigeant sur les finitions, sur les détails. Il nous faut en face des entrepreneurs qui soient experts justement dans ce type de prestations. Donc on a des miroitiers, des serruriers, des ferronniers, des staffeurs, des ébénistes, des gens qui sont vraiment dans un savoir-faire assez impressionnant. Et cette collaboration nous permet d'aller au bout des projets. Donc l'architecte d'intérieur, généralement, il travaille avec de bonnes entreprises. Et ces entreprises, il ne les voit pas comme des exécutants lambda.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Ça peut être le côté je donne des ordres, je pilote. Ce n'est pas du tout ça.
Non, nous, on est partenaires. Surtout que souvent, on leur demande l'impossible. Hein, notre grand jeu, c'est de dessiner des choses qui sont quand même complexes, qui sont subtiles, qui ne sont pas toujours faciles à mettre en œuvre. Et à un moment donné, on est dans l'échange. On est dans l'échange pour trouver avec eux les meilleures solutions.
Alors, il faut parler, comme souvent on en parle, d'argent aussi. Ça coûte cher, l'architecte d'intérieur.
Comme je l'ai dit dans l'exemple précédent, avec les 50 000 euros qu'on peut dépenser avec des vilaines couleurs ou des belles couleurs, le concept même de l'architecture intérieure, qui est de valoriser les espaces, ce qui passe beaucoup par la perspective, par les proportions, par les volumes et par la couleur, ça coûte pas très cher. Parce qu'en fait, c'est vraiment un schéma global, et qu'il soit bien fait ou mal fait, c'est le même prix. En revanche, si vous entrez dans des prestations plus haut de gamme, on va dire de standing, avec des matériaux très nobles, avec des parquets, avec des essences rares, si vous faites beaucoup de détails, beaucoup de finitions, effectivement, les prix peuvent monter. Donc, on n'est pas sur des prestations bas de gamme, en général. Encore que quand on fait de l'éducatif ou de l'hospitalier, on sait très bien travailler avec des coûts de production qui sont les mêmes que les architectes ou que n'importe quel maître d'œuvre. Mais après, il y a une partie de l'architecture intérieure, notamment, je pense à l'habitat, je pense au retail, je pense à l'hôtellerie, où on cherche, on nous demande aussi des prestations assez qualitatives, et là les prix vont être plus élevés.
Et alors comment on peut le trouver son architecte d'intérieur, celui qui va nous convenir totalement pour notre projet ?
C'est une très bonne question, parce qu'effectivement le terme n'est pas aujourd'hui protégé, c'est un des sujets pour lesquels on se bat auprès justement du Sénat, de l'Assemblée, de le ministère de la Culture, et donc on peut malheureusement tomber sur des architectes d'intérieur qui ne sont pas des vrais architectes d'intérieur. Donc c'est important de vérifier leur diplôme, éventuellement de savoir s'ils sont qualifiés CFAI, Conseil français des architectes d'intérieur, qui est un label qui garantit quand même une certaine qualité, éventuellement voir avec Pôle Action s'ils sont adhérents à Pôle Action, ce qui est aussi une forme de sécurité, et puis donc vérifier le diplôme, vérifier la compétence, et on peut les trouver facilement sur le site du CFAI, puisqu'il y a un annuaire de recherche par région, par département, pour trouver des professionnels. On peut aussi se tourner auprès des syndicats régionaux comme Pôle Action. Il y a plusieurs moyens de trouver des architectes d'intérieur dignes de ce nom.
Et donc vous parliez d'une profession qui séduisait de plus en plus, vous en voyez arriver justement de plus en plus d'architectes d'intérieur.
Oui. Non, mais ça c'est quelque chose. Alors, vous savez, en France, souvent on parle du French bashing, ça veut dire qu'on a deux fois du mal à se valoriser et à voir nos réussites. Et l'architecture intérieure aujourd'hui, aussi bien dans l'enseignement que dans la production, elle est très, très en vogue. Et les écoles où j'interviens m'étonnent, parce qu'elles ont de plus en plus d'étudiants étrangers. Des étudiants anglais, allemands, américains et asiatiques.
Là, c'est la French touch.
Ils viennent chercher en France, auprès d'écoles prestigieuses, le savoir-faire français sur l'art appliqué et l'architecture intérieure. Et c'est des filières qui montent en nombre. Donc on a de plus en plus d'étudiants, on a fatalement de plus en plus de diplômés, et je pense qu'on a de plus en plus de professionnels. Donc c'est un métier qui pour l'instant recrute bien.
Voilà, puis avec ce qu'on a traversé aussi, on sait bien à quel point les gens ont envie justement d'un cocon.
Exactement.
Et que c'est un métier qui ne peut que continuer à progresser.
On est d'accord.
Merci beaucoup à vous pour cet éclairage sur le métier d'architecte d'intérieur, Étienne Prost, ancien président du CFAI. On va marquer une nouvelle pause et puis on va se tourner vers les enjeux de la construction 4.0 et parler des atouts de la préfabrication des équipements. Ce sera dans un court instant dans cette émission, le rendez-vous du Mondial du Bâtiment.
Les rendez-vous du Mondial du Bâtiment, les métiers. Une émission à retrouver et à réécouter sur le site de Bâti Radio.